Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, nous allons nous écarter d'une vision peut-être un peu restreinte de la culture. Pas d'histoire, pas de littérature, ni de musique ou de philosophie. Nous allons élargir notre point de vue pour nous intéresser à une vaste question qui s'est posée ou se pose encore à nous tous, qui se posera à nos enfants, à nos petits-enfants, cette question qui se déploie dans toutes nos sociétés contemporaines et que l'on voit évoluer dans des formes que nous ne percevons pas toujours clairement, comme un animal un peu curieux, une machine peut-être dévorante, à plusieurs têtes, à plusieurs pattes, une créature peut-être certainement, parfois tout au moins, monstrueuse, une colonne vertébrale énorme qui assure toute la vie de notre société. Cette question, c'est tout simplement le travail. Ce n'est pas rien, c'est une de nos préoccupations principales lorsqu'on est soi-même au travail. Et si on ne travaille pas, ça concerne très directement ce que vivent nos proches. C'est l'importance de cette question que j'aimerais aborder avec notre invitée. Elle est jeune, à peine plus de 40 ans. Elle a un CV long comme le bras, une expérience professionnelle déjà très conséquente. Et en plus, elle a une vraie réflexion sur l'évolution de cette espèce animale qu'est le travail et les équipes au travail, et sur la place des hommes et des femmes dans leur milieu professionnel. Elle publie un livre copieux, étrange lui aussi, comme l'animal fantastique sur lequel porte sa recherche. Son titre, Équipe non féminin, ou plutôt Équipe N.F, non féminin, avec le sous-titre Animal fantastique qui nous travaille. Bonsoir Vanina Lanfranchi.
Bonsoir Claude et merci de me recevoir dans cette émission qui porte bien son nom d'ailleurs en rapport avec le thème d'aujourd'hui.
On pense au croc du loup peut-être, mais pour ce qui nous concerne c'est plutôt l'horaire. Merci à vous surtout de nous accueillir dans un de vos lieux de travail à Paris et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la publication de ce livre consacré aux équipes de travail et à leur fonctionnement. Avant d'en venir à ce travail considérable qui constitue votre livre, j'aimerais que vous nous disiez qui vous êtes. Quand on a 10 ou 12 ans, qu'on est une fille, on ne rêve pas forcément de devenir un jour coach d'équipe de travail. Vous rêviez de quoi, Vanina Lanfranchi?
Ce qui est peut-être le plus drôle, parce que peut-être que l'émission de radio a pour objectif aussi de distraire les auditeurs, c'est que j'ai songé à un moment devenir pilote de Canadair. C'est une idée qui m'est venue sur une plage corse. Et pour moi, c'était un métier d'une part utile. Il y a cette fibre, un peu ce sens du service public ou de l'intérêt général qui m'a toujours habité. Et voilà, je trouvais que c'était un beau métier. Et donc, en effet, avec pilote de Canadair, on est loin du métier de coach d'équipe. Et ça s'est développé peut-être un peu plus tard, au fur et à mesure de la vie professionnelle. Parce qu'on en côtoie des équipes et elles m'ont toujours intriguée, encore aujourd'hui. D'où peut-être l'idée de ce livre.
En effet, pilote de Canadair, on voit bien cet animal qui fonce dans l'eau, qui ramasse des tonnes d'eau et qui s'envole après. Et ça vous a fait rêver. Vous êtes aussi un peu pilote dans votre vie. Est-ce que vous pilotez votre vie? Est-ce que vous avez piloté votre vie?
Alors c'est vrai que pendant toute une première partie de ma vie professionnelle, je n'ai pas vraiment eu l'impression de piloter ma vie puisque j'ai suivi le chemin études, diplôme, travail, CDI, salarié, grimper les échelons, voilà. Et c'est il y a quelques années, en entamant une reconversion professionnelle, que j'ai pu reprendre un peu les commandes de cette aventure professionnelle.
Vous parlez comme ça, comme une sorte de banalité, votre cursus d'études. En fait, il est plus que sérieux. Vous avez été en formation en économie et finance à l'université prestigieuse de Dauphine, suivie de Sciences Po à Paris. Qu'est-ce qui vous reste de ces expériences? Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous en attendiez peut-être à l'époque?
Les études d'économie, j'en attendais quelque chose de bien précis. Je voulais comprendre le monde. Bon, alors c'est très vaste. Pendant les deux premières années d'études à l'université, j'ai pas du tout compris le monde. J'ai compris comment calculer des dérivées secondes, faire des statistiques, des mathématiques, parce que c'est ça les études d'économie au départ. Puis, au cours des deux années suivantes, là, tout ce modèle parfait de l'homo economicus, de la concurrence pure et parfaite, a été détricoté pour étudier tous les grains de sable dans les rouages, que ce soit les externalités positives ou négatives, l'économie des réseaux, les comportements moutonniers en bourse. Et donc là, c'est devenu vraiment passionnant. Donc voilà, finalement, mes attentes ont été remplies. Et ce que j'attendais des études à Sciences Po, j'avoue que c'était... je pensais qu'avoir des diplômes m'ouvrirait les portes d'un monde professionnel intéressant. Bon, j'ai compris un peu plus tard que le diplôme, c'était certes une garantie, une assurance travail en fait, mais que la vie professionnelle devait aussi être composée de choix, d'essais erreurs, de tentatives, de curiosités. Et j'ai mis un peu de temps à me réveiller de ce point de vue-là.
Qu'est-ce que le monde interrogeait en vous quand vous cherchiez à découvrir et à comprendre le monde? À quelles questions vous vous posiez vous-même, Vanina Lanfranchi?
À la base, c'est parti d'un sentiment peut-être un peu égoïste. Je me disais que je ne pourrais pas travailler dans un domaine, quel qu'il soit, si je n'avais pas les tenants et aboutissants du système. Donc ça s'est élargi à ce souhait de mieux comprendre le monde. Aussi, je me sentais peut-être trop jeune pour me spécialiser uniquement en sciences, en littérature, qui étaient les deux grosses polarités entre lesquelles choisir après le bac. Donc, je voulais garder quelque chose d'assez généraliste.
Très bien. Donc, une grande ouverture d'esprit, mais avec le prisme, je dirais, de l'économie, ce qui est un très bon prisme, d'ailleurs, pour comprendre le monde. Ça peut être une très bonne entrée. Vous avez travaillé pendant une dizaine, peut-être même plus, de 15 ans, près de 15 ans, dans la finance. Moi qui ne comprends rien à tout ce monde-là, vous allez m'expliquer ce que c'est. Et c'est un monde qui, vu de l'extérieur, semble être habité par des animaux. Vous aimez bien les animaux, vous, hein? Vous faites une sorte de zoo ou de galerie de l'évolution dans votre livre. Mais des animaux aux mâchoires redoutables et à l'appétit insatiable pour l'argent. Qu'est-ce que cette expérience de 15 ans vous a donné et est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est que ce monde?
Oui. Alors bon, la finance, c'est un domaine qui est très vaste. Au sein de la finance, plus particulièrement, je travaillais dans le domaine des fonds d'investissement et des fonds de capital risque. Donc ce sont des sortes de, comme des bourses, des porte-monnaies dans lesquelles des investisseurs de toute nature vont investir. Donc ces investisseurs peuvent être des particuliers, des compagnies d'assurance, des banques, des entreprises. Cet argent va être investi par les financiers, les gestionnaires des fonds, dans des entreprises qu'ils auront sélectionnées en espérant qu'elles soient les pépites de demain, qu'elles soient rentables, qu'elles croissent, etc. Le fonds, c'est un produit financier qui dure une dizaine d'années, une douzaine d'années même. On espère que l'argent rendu aux investisseurs à la fin sera supérieur à celui qu'ils ont investi, bien évidemment. Donc voilà en gros le schéma proposé.
Et est-ce que vous vous sentiez bien à votre place dans ce monde-là ? Est-ce que la définition des animaux à grosse mâchoire, appétit insatiable est juste ?
Je me suis raconté une histoire qui est celle aussi qu'on raconte souvent à tout un chacun pour expliquer ces fonds et leurs mécanismes. L'histoire, c'est que ces fonds permettent de financer le tissu économique, les jeunes entreprises, le tissu économique français, alors qu'elles n'ont souvent pas accès au crédit bancaire et que, par ailleurs, elles innovent, elles créent de l'emploi, elles font vivre l'économie française. Donc cette histoire est réelle et c'est celle à laquelle je me suis raccrochée pour penser, œuvrer dans le sens de l'intérêt général, moi aussi à ma manière. Ensuite, quand on est dans une société de gestion, en fait, c'est la société de gestion qui est la coquille juridique qui gère le fonds. Quand on travaille dans une société de gestion, on se rend compte que ça fonctionne selon une gouvernance bien particulière. En fait, pour créer une société de gestion, il faut avoir déjà, un certain pouvoir et de l'argent. Les fondateurs d'une société de gestion ont des apports très importants. Donc ensuite, ils gèrent leur société de gestion plutôt comme un partenariat financier, comme un partnership, comme on dirait à l'anglaise, plutôt que comme une PME, une entreprise qui va produire des biens et des services. Là, le service produit, c'est un service financier via un produit qui est le fonds. Mais cette gouvernance bien particulière explique ensuite beaucoup du fonctionnement quotidien de ce type de société.
Oui, nous allons y venir puisque parmi les plus de 100 personnes que vous avez interviewé pour constituer ce livre, cette somme considérable de témoignages des équipes au travail, vous abordez cette question-là comme étant la question centrale, la gouvernance particulière. On peut évoquer cette part de votre panel d'entreprises, des sociétés de gestion, des cabinets d'avocats, mais aussi de la grande distribution que vous avez eu comme manager dans la grande distribution, et aussi bien d'autres, des associations aussi, des services publics. Définissez-nous un peu ces 100 ou 150 personnes ou 150 entreprises que vous avez cherché à joindre pour avoir leur témoignage concret.
Oui, c'est en effet, à l'origine, je connaissais très bien donc le monde des sociétés de gestion et des fonds et leurs équipes. Évidemment, pour être coach d'équipe, il faut, à mon sens, avoir un regard plus varié sur les équipes au travail. Donc, pour ne pas mener des interviews qui soient biaisées, j'ai cherché à avoir un panel d'interviewés très large, donc dans plusieurs secteurs, plusieurs pays, plusieurs tailles d'équipes, que ce soit des équipes hiérarchiques ou des équipes projet, dans le secteur public ou privé. Donc, en effet, vous avez cité le monde de la grande distribution. On a aussi des hôtels, des restaurants, une personne qui organise des tournées dans un bus, un hôpital, des services publics divers qui se chargent de distribuer les retraites, les allocations familiales. Donc oui, c'est très vaste. J'ai couvert peut-être 4 ou 5 pays également.
Est-ce que je peux vous demander votre questionnement avant de démarrer cette entreprise considérable ? C'est un échafaudage énorme, c'est un chantier énorme que vous avez lancé. Quel était votre questionnement, la problématique que vous posiez, est-ce que c'était comment ça marche le monde ou comment ça marche les équipes au travail.
Alors là, oui, ma problématique était double. Donc j'avais cette question, comment ça marche une équipe ? Et j'avais une question aussi qui est vraiment purement professionnelle, c'est que en tant que coach d'équipe, je dois être au contact de dirigeants, de managers, de responsables d'équipe qui sont mes clients. Et donc la question était comment leur parler, comment me présenter à eux, qu'est-ce que je vais leur dire. Finalement, cette question s'est inversée et je l'ai transformée en moi je vais les interroger sur leurs équipes au travail, le fonctionnement de leurs équipes. Par curiosité.
Oui, c'est une curiosité bien naturelle et bien efficace puisque vous avez retiré énormément de témoignages. Hein. C'est vraiment une somme considérable, je le redis. C'était aussi une manière de comprendre le monde et de vous adresser à vos futurs clients pour mieux les connaître. Ça, c'est un principe de marketing. Il vaut mieux connaître ses clients.
Oui, tout à fait. Sachant que, alors, sur les 102 personnes interviewées, certains ont le profil de mes clients, mais ne pourront pas l'être. Déjà, les interviews ont eu lieu il y a un petit moment maintenant, et je vois en suivant les trajectoires des uns et des autres que beaucoup ont changé de parcours, ont changé d'environnement professionnel, ont eu des promotions. Et d'autre part, mon idée phare était tout de même de comprendre mieux ces équipes et non pas de téléphoner à des gens pour avoir un contrat signé dans les 5 minutes. Donc, je me suis plus attachée à ce profil de responsable d'équipe qu'à la dimension commerciale immédiate.
Oui, c'est très intéressant. On se rend compte de l'impact et de l'importance de votre travail quand on lit ce livre avec tous ces témoignages. On va s'interrompre quelques minutes peut-être pour écouter votre premier choix musical. Pourquoi ce choix ? Dites-nous ce que c'est et pourquoi.
Alors, vous allez peut-être reconnaître ce titre. C'est un titre que, pour ma part, j'écoutais quand j'avais la vingtaine. Et qui, aujourd'hui, quand je le réécoute, me replace dans cette époque où je me disais, j'étais un peu impatiente, je me disais que l'avenir, c'était demain. Et donc, il fallait que je fasse vite tout, mais sans savoir vraiment quoi. Donc, ce titre me rappelle cette époque-là.
Le titre, c'est « Out of Time ». Man, out of time, man, par la Mano Negra. En effet, on va retourner dans les années 90, 2000. Voilà, on y va.
Think it's 9 o'clock, says Dan. His girl would wait for the hour. jamais.
Nights have passed too.
Long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So tell me, church and me.
Nights have passed too.
Long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So tell me, church and me. Long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time to church and me.
Nights have passed two.
Long gone the rendezvous.
Nights have passed three.
Time made a fool out of me.
Nights have passed four.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting no more.
So time to church and me.
Nights have passed two.
Long gone the rendezvous.
Vous êtes bien sûr IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy et ce soir nous sommes en compagnie extrêmement dynamique de Vanina Lanfranchi qui nous apprend beaucoup de choses et qui publie un livre intitulé « Équipe NF non féminin, animal fantastique qui nous travaille ». À propos des équipes de travail, vous parlez de cet animal fantastique. Vous avez reçu de vos interlocuteurs plus d'une centaine de témoignages qui sont comme des photographies, des instantanés. À quoi ressemble cet animal et sous ses différentes formes?
Alors ça, c'est la question à laquelle tout le monde aimerait beaucoup que je réponde, mais je vais un petit peu botter en touche. Tout d'abord, je suis persuadée que chaque auditeur, dans sa tête, est en train d'imaginer l'équipe Animal Fantastique qu'il a connue, qu'il voudrait créer. Et je préfère donc laisser cette part d'imagination, mais je vais quand même vous donner un petit peu d'éléments. Pour moi, cet animal fantastique, il a trois caractéristiques. Il est hybride.
C'est-à-dire,
vous voyez un peu les livres pour enfants, on compose un animal fantastique avec la tête d'un dragon, les ailes d'un cheval ailé et des pattes aux griffes acérées. Bon, c'est ça l'hybridité de l'animal fantastique équipe. C'est que, bah, vous l'imaginez bien, il peut avoir une tête d'hydre, donc bon, une tête pas très, une vision pas très unifiée, un corps qui essaye d'avoir les ailes qui pousse pour décoller, mais bon, on est en pleine mue, c'est pas forcément évident. Des pattes qui courent peut-être trop vite ou pas assez vite. Donc c'est ça l'hybridité de l'animal fantastique à laquelle je songe. D'autre part, il est sa seconde caractéristique, à mon sens, c'est qu'il est singulier. Aucune équipe ne ressemble à l'équipe du voisin, sinon ce serait trop simple. Et troisième caractéristique, il est illusoire, mais en fait même plus précisément ce qui est illusoire, c'est de penser que l'animal fantastique équipe va fonctionner naturellement et pour toujours très bien. Pour moi, c'est ça qui est totalement illusoire
et vulnérable. C'est un animal qui peut être à la fois monstrueux, hein, par sa taille, avec une grosse tête, des petites pattes qui font le boulot. En fait, c'est ça, une équipe, c'est souvent telle qu'on se la représente, c'est un chef et des petits soldats derrière. C'est une des formes qu'il peut prendre. Ça peut être aussi autrement.
Oui, alors ça c'est un point important que vous soulignez, c'est que la place du chef, du manager, du dirigeant, du responsable d'équipe est ambiguë. Et ça, cette ambiguïté, elle m'a poursuivie tout au long de l'écriture du livre. Et ben, au lieu de la masquer et de la faire taire, je me suis dit que le plus pertinent pour aussi donner au lecteur la réalité des choses, c'était d'affirmer que cette place était ambiguë. On ne peut pas le nier. Donc le manager, pour moi, se situe dans trois positions possibles. Soit il est extérieur à l'animal fantastique, mais il essaye de le dresser, de l'apprivoiser. Soit, d'un point de vue plus organique, le manager est partie intégrante du système équipe. Mais alors là encore, la question est-ce qu'il est la tête? Est-ce qu'il est le cerveau? Est-ce qu'il est le sang, les nerfs, les jambes, les yeux? On peut aller loin comme ça. Et la troisième possibilité, qui est très cruelle, c'est le manager qui se sentirait dévoré par son équipe. On ne veut pas arriver à cette extrémité-là.
Parmi les personnes qui témoignent de leur activité, encore une fois, c'est dans tellement de domaines très différents, certains ont la crainte de ça. Il y a plusieurs témoignages assez critiques, en fait. Hein. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On parle des, ce que vous disiez tout à l'heure, des grains de sable dans les rouages. Et dans ces grains de sable, dans les rouages, on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas ?
Quand ça marche, tout va bien, les équipes fonctionnent, les clients sont là, l'argent coule, tout va bien, le recrutement se fait bien, et puis il y a une certaine polyvalence, enfin il y a de la communication, enfin ça c'est la vision idéale, mais c'est pas celle qui ressort du livre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, de critiques, de peurs, et je pense quelquefois aux commentaires qu'on fait lorsque les équipes de France d'athlétisme, de foot, de rugby n'ont pas les très bons résultats auxquels on s'attend, auxquels on espère, et on va chercher le responsable. On va chercher le responsable, c'est le coach, c'est le manager, c'est le dirigeant, c'est l'entraîneur. Quand ça ne marche pas dans une équipe, qu'est-ce qui se passe, Vanina Lanfranchi, vous qui en avez connu beaucoup?
Après avoir réalisé ces 102 interviews, j'ai procédé à une analyse des réponses. Et donc, la manière dont les interviewés décrivent les problèmes qu'ils rencontrent, quand ils en rencontrent, parce qu'on a quand même aussi quelques cas positifs et des succès. Bon, quand ils rencontrent des problèmes, ils les expliquent soit par des causes exogènes, l'inflation, la guerre, le Covid, les jeunes, la grande démission, etc. Soit ils expliquent ils expliquent leurs problèmes rencontrés en équipe sous le prisme des personnalités. Donc les personnalités, quand elles sont extra, on va les appeler les talents, les perles rares. Quand elles sont entre guillemets défaillantes, on va les appeler vilain petit canard, bouc émissaire. J'ai un avis un peu plus élaboré sur ce thème des personnalités, mais c'est vrai que c'est récurrent, oui.
J'aimerais qu'on y revienne sur cet aspect des personnalités. Hein. Ça m'a questionné en partie parce qu'il y a des moments où c'est un peu secondaire pour vous et d'autres moments où c'est plus prioritaire. Vos interlocuteurs parlent, quand ça marche pas, vos interlocuteurs parlent souvent d'un flou. Alors ce thème du flou, c'est-à-dire du manque de décision, du manque d'anticipation, il n'y a pas de vision. On parle de défaut de gouvernance et l'une de vos interlocutrices dit que c'est le véritable talon d'Achille de l'organisation. Donc qu'est-ce qui fait, selon vous, le malheur des équipes?
Oui, alors le flou, je me souviens que ça correspond à un titre du livre qui doit être du genre l'animal fantastique a sa vision brouillée, il n'arrive pas à naviguer dans le flou, il ne peut pas avancer dans le flou, ça doit être ça. Et donc en effet, c'est une des blessures que cet animal peut connaître, une de ses souffrances. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse du flou qui serait la transparence à 300% parce que les dirigeants, les managers ne peuvent pas en permanence tout dire, tout expliquer, tout relater parce qu'ils vivent aussi dans un univers mouvant.
Et même certains vous disent mais on a essayé la transparence totale et ça a été un échec.
Oui, tout à fait. Certains ont essayé la transparence totale sur les rémunérations, sur l'ambition de leur société en cours de développement. Et quand ils ont poussé le curseur de la transparence jusqu'au bout, ils n'ont pas été satisfaits du résultat, les équipes non plus. Donc c'est un peu une question de curseur à régler entre transparence totale et opacité absolue. Il y a une anecdote, enfin un cas qui n'est pas de moi, hein, mais que je trouve assez parlant sur la communication. C'est de donner quelques informations sur les étapes auxquelles on en est, où on va. Un exemple simple, ce sont les panneaux d'affichage aux arrêts de bus ou dans les gares. C'est pas forcément vrai que le train va arriver dans 5 minutes, mais on nous prévient que le train va arriver dans 5 minutes. Et ça, c'est rassurant, même si derrière il n'y a pas une analyse stratégique poussée l'avancée du train sur les rails. Mais c'est un élément, ça montre en partie le respect que le manager ou le dirigeant accorde à son équipe, qui n'est pas une simple exécutante comme à l'usine.
Oui, c'est très intéressant. La notion du temps et d'accélération du temps dans la vie de travail. Est-ce que vous, qui êtes très jeune et qui êtes au contact de nombreuses équipes, est-ce que vous sentez une évolution et est-ce qu'elle peut être positive à certains moments, ou bien les conséquences de cette accélération du temps que tout le monde peut vivre individuellement, est-ce qu'elle joue sur les équipes de travail?
Alors ça, c'est un thème central qui est revenu souvent. En parlant d'animal fantastique, il y a plusieurs thèmes qui m'ont fait penser au monstre du Loch Ness. C'est-à-dire, tout le monde dit qu'il est... tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a réellement bien photographié. Donc, moi, cet effet monstre du Loch Ness m'est apparu quand 40, 50 interviewés m'ont tous dit « il y a une accélération du temps, maintenant tout va vite ». Je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est une vision? Est-ce que c'est un consensus? Est-ce que c'est quelque chose que je dois creuser davantage? Est-ce que je dois prendre leurs paroles telles quelles, ou soulever un petit peu ce voile pour regarder plus en profondeur? Et je me suis appuyée pour répondre à cette question sur plusieurs études faites par des chercheurs, des sociologues, pour étoffer ce propos. Et il y a notamment un livre de David Mulman qui parle de ça, qui dit que, en quelques mots, hein, on est souvent soumis au travail à des injonctions contradictoires du type « soyez disruptif », mais aussi « soyez respectueux du lien de subordination, conforme, etc. » Bon, ces injonctions contradictoires, chacun les rapporte à la maison sous forme de rumination. Donc là, ce brouillage des frontières entre les temps au travail, les temps à la maison est flagrant et concerne toutes les catégories de travailleurs, que ce soit les cadres ou les salariés ou les employés. À une époque, la classe supérieure bénéficiait davantage. On disait que c'était la classe de loisirs. Ils bénéficiaient des loisirs. Voilà, ce n'est plus le cas. Maintenant, même les dirigeants qui font partie de la classe supérieure n'ont plus ce temps de loisirs total à la maison, en dehors des heures de travail. Donc lui, David Mulman, appelle ça la colonisation mentale. Et il dit qu'on assiste à une prolétarisation des cadres. Bon, donc voilà pour répondre un peu plus en profondeur sur ce consensus qu'il y a autour de l'accélération des temps.
Alors précisément, il y a plusieurs managers qui se plaignent de ne pas avoir le temps de prendre du recul, de faire un peu l'examen du travail d'équipe, de leur propre communication, du niveau d'information qu'ils souhaiteraient, qu'ils rêveraient de mettre en place. Donc, du côté des équipes, on reproche à ces mêmes dirigeants leur manque d'anticipation. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment comme si les dirigeants devaient avoir la science infuse sur l'avenir et sur tout ce qui pourrait rassurer, être un guide, une sorte de guide de haute montagne. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on attend, hein, c'est d'être assuré sur la paroi.
C'est intéressant cette expression que vous avez utilisée, ce qu'on attend. Dans le système des entreprises, dans le monde du travail dans lequel on vit, il me semble que face aux problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, le manager ou le dirigeant se sent investi d'une responsabilité. Et la responsabilité, pour prendre une image fantastique, ça va être de revêtir sa cape de super-héros. Donc, sous la cape de super-héros, il y a « je dois colmater les brèches »,« je dois gérer les urgences »,« il faut quand même en même temps que je sache gérer mon stress », »,« que j'organise mes temps personnels, professionnels », que je sois attentif à chacune des personnalités qui composent mon équipe. La cape, finalement, est très lourde, très chargée. Ce manager et les équipes qui sont managées ne voient pas forcément toujours l'autre paradigme qui serait renforcer le jeu collectif de toute l'équipe.
En effet, c'est l'image du super-héros à la place du dirigeant. Enfin, le dirigeant est une sorte de super-héros dont on attend tout. Donc, et on attend qu'il ait la vision, qu'il ait le boulot, qu'il trouve les clients, qu'il assure la rémunération, qu'il pense au bonus, qu'il pense. Et il y a comme une sorte d'attente de maternage. Il y a quand même une assez grande ambiguïté chez la demande, l'attente de responsabilité et en même temps l'attente de maternage. Est-ce que votre animal fantastique ne relèverait pas d'un divan de psychanalyste ?
Là, c'est pas vraiment mon domaine, alors je pourrais pas dire. Mais c'est vrai que si on se rattache au domaine sémantique, quelques interviewés ont employé des termes qui se rapportent au maternage, au paternalisme, et se posent donc la question de la juste distance à avoir vis-à-vis de leurs équipes.
C'est précisément à cet endroit-là que je voulais qu'on s'interroge sur l'idée des individualités, parce qu'au fond, que ce soit dans une équipe de travail, dans un hôtel, dans un grand supermarché, dans une agence de voyage ou un cabinet d'avocats ou de finances, la personne compte beaucoup. Ce sont les personnes qui font marcher tout ça. Ce sont des individualités. Ce sont des jeunes mères de famille ou des jeunes pères qui ont leurs soucis, voiture qui est en panne, les enfants à emmener à l'école et à la musique. Enfin, tout ça, ça existe. Or, dans le livre et dans votre analyse, vous dites... Ce qui m'intéresse dans cette recherche, c'est de décrypter, de comprendre les rouages. Et je ne tiens pas compte, le moins possible, des individualités et des personnalités. Comment vous arrivez à analyser à la fois des rouages, des modalités de travail, et sans passer par les personnes qui ont leurs peurs, leurs frustrations, leurs angoisses et aussi leurs ambitions.
En effet, c'est nécessaire et c'est indispensable parce que l'équipe c'est un système humain, c'est un collectif de travail. Donc c'est indispensable de connaître les personnes qui composent l'équipe, de les écouter, de connaître leurs besoins, de comprendre aussi leurs stratégies, leurs intérêts, leurs souhaits, la direction qu'elles souhaitent emprunter.
Et leur névrose, parce que au fond, les êtres humains là, tels que on les connaît, ils sont pris dans des choses un peu conflictuelles à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils s'apprécient, est-ce qu'ils se connaissent bien, est-ce que vous avez l'idéal du moi, on a envie de vivre des choses on a tous envie peut-être d'être des super-héros aussi.
Oui, ça fait partie de cette dimension compréhension, analyse des stratégies individuelles, des besoins individuels. Et d'ailleurs, je pense pas que le manager ou le responsable d'équipe soit le mieux placé pour mener cette analyse tout seul, puisque c'est un peu comme s'il était au sommet d'un iceberg. Il n'aura jamais la vision complète de tout ce qui se passe sous le niveau de la mer. D'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible que l'équipe ne délivre pas tout au manager. Donc cette partie, je la trouve intéressante. Néanmoins, ce qui pour moi ne fonctionne pas, ce qui est vain, ça va être de tenter de résoudre des problèmes d'équipe par le prisme des personnalités uniquement, par une logique un peu gestionnaire de il me faut recruter quelqu'un d'exceptionnel versus je dois licencier, faire partir ou me séparer de ce vilain petit canard. Je pense que ça, c'est un système, et pour l'avoir observé plusieurs fois, qui est sans fin. Il y aura toujours un vilain petit canard. On cherchera toujours à accueillir une perle rare. Cependant, si la perle rare arrive dans une équipe ou une organisation qui n'est pas elle-même une perle rare, le mariage ne sera que de courte durée. Donc voilà, c'est les personnalités, je trouve que c'est essentiel d'y attacher de l'attention dans un mode diagnostic, mais que ce n'est pas une solution pour régler les problèmes de l'équipe.
Donc, on fera le divan, ce sera à l'extérieur du service dans lequel on travaille. On peut parler de l'influence du Covid et de cette période extraordinairement surprenante, disruptive dans notre monde du travail. Ce sera un des points qui apparaissent évidemment dans le livre. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'argent et la rémunération. La rémunération, c'est être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, etc. Mais je note qu'une interlocutrice vous dit « Mais l'argent, ça fait pas tout. Ce ne sont pas des incitations suffisantes. Le côté humain est le plus important. » C'est une remarque quand même profonde là, qui doit vous alerter. Le côté humain est le plus important que d'être reconnu par un bonus ou un salaire.
Oui, c'est vrai que cette question a parfois été abordée. On remarque quand même qu'il y a encore un tabou français sur ce sujet. Les gens ont souvent contourné la question, à part cette interviewée-là, et l'ont abordée davantage sous le prisme du package global, intéressement, retenir les uns ou les autres. L'argent ne fait pas tout. Alors ça, oui, en effet, quand... Je ne suis pas non plus une spécialiste de ça. J'aimerais vous renvoyer vers une experte du domaine de la rémunération qui s'appelle Sandrine Dorbe et qui relie très pertinemment toutes ces questions d'argent avec le domaine des émotions. Et qui, dont le slogan, j'ai peur de pas le citer de manière exacte, mais est « l'argent ne fait pas tout, la rémunération n'est pas tout ». Voilà, c'est encore une fois, c'est juste la face visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière ces sujets de rémunération.
On évite d'aborder le côté humain, quelquefois, c'est ce que disait cette interlocutrice, au profit d'une sorte de miroir aux alouettes qui est plus brillant. Hein. On va écouter votre deuxième choix musical. Alors là, c'est assez étonnant. C'est une chanson qui nous... Enfin, ça s'appelle « Seul avec du monde autour » d'Aurel San, et elle vous évoque quelque chose aussi.
Oui, cette chanson, pour moi, je la relis au documentaire qui est sorti sur la manière dont Aurel San a écrit ses albums. Donc c'est sur son processus créatif et plus particulièrement son processus d'écriture de chansons. Et cette chanson me rappelle ce documentaire où on voit qu'en effet, bah, il est un peu seul dans sa tête et avec sa voix, son micro et son clavier, mais en même temps bien entouré. C'est ce que la vie finalement de d'entrepreneur et d'indépendant, de personne à son compte, m'évoque, où on est seul statutairement parlant, mais très bien entouré également.
Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs, j'en la vérité sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour.
Voilà, nous reprenons le cours de notre émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy et ce soir mon invité est Vanina Lanfranchi qui dans un livre important, fruit d'une recherche et d'une réflexion sur les équipes de travail, nous offre un panorama assez questionnant. Beaucoup de vos interviewés, managers, hommes ou femmes, semblent un peu flottants. C'est-à-dire ils ne savent pas toujours utiliser la boussole à bon escient et ils ne savent pas toujours. Et leurs équipes ne savent pas non plus. Et c'est ça qui est un peu grave. Pourquoi elles sont là? Pourquoi ils sont là? Je vais vous laisser répondre à cette question-là, mais j'aurais aimé avant vous demander si vous pouvez faire la distinction entre le management des hommes et le management des femmes. Dans votre panel, vous avez été très scrupuleuse pour la parité, vous avez choisi 51 hommes, 51 femmes. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre une direction d'hommes et une direction de femmes? Vanina Lanfranchi.
Oui, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Donc c'est vrai qu'en composant mon panel, j'ai forcé, j'ai fait exprès, j'ai cherché activement à avoir 51 femmes et 51 hommes. Ensuite, ça, je pense que ça reste une question ouverte. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé des fondatrices d'entreprises, des dirigeantes, des managers femmes, elle-même avait toujours un peu cette question en flottement. Est-ce que je dirige comme une femme? Y a-t-il une manière de diriger plus féminine? Bon, donc ça, c'était une question un peu flottante. Une question qu'il était beaucoup moins était « Je constate que je suis la seule femme au COMEX, au CODIR, et c'est très difficile. » Donc ça, c'est la difficulté était plutôt reconnue dans ce domaine-là. Donc, je crois pas.
Est-ce que les hommes sont plus rationnels? Ça, c'est une vision un peu caricaturale, peut-être un peu cliché. Plus rationnels, les femmes plus affectives. Est-ce qu'elles savent plus, meilleures stratèges?
Non, pour moi, on peut pas dire ça. D'ailleurs, je pense que les recherches scientifiques montre qu'il n'y a pas de différence, hein. Déjà, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau homme, cerveau femme, on peut oublier. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait de différence de ce point de vue-là.
Il y a quelque chose qui m'a un peu surpris dans ces témoignages, c'est que, normalement, pour que tout fonctionne, que les trains arrivent à l'heure, il faut une organisation assez claire. Or, on a l'impression qu'il y a tellement d'imperfections dans les rouages qu'on se demande, et vous posez la question très directement, pourquoi cette clarification des rôles et des places n'est-elle pas effective plus souvent ? Avec le recul que vous avez sur votre expérience et les témoignages qui vous ont été apportés, qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi est-ce que les organisations ne sont pas claires ?
Pour avoir côtoyé et observé beaucoup d'équipes fondatrices, donc équipes fondatrices, créatrices de jeunes entreprises et de nouvelles entreprises, il me semble qu'à chaque fois, le fait de clarifier les rôles, la répartition des pouvoirs et des périmètres d'action est quelque chose de douloureux. On n'a pas envie de penser au pire. On pense à être dans le feu de l'action, à délivrer, comme on dit, rapidement. Et donc ce côté douloureux empêche peut-être de se poser concrètement sur le sujet. En plus, il faut quand même avoir des compétences, des compétences d'avocat, des compétences d'expert en gouvernance pour affronter ces sujets avec un œil tiers, justement.
Ça m'évoque une question qui, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, les dirigeants insistaient beaucoup sur l'éthique de leur entreprise. Hein, il fallait être donc dans un flux qui tienne compte des personnes. J'ai l'impression que dans les échos que l'on a, et même vous qui êtes très attentifs aux mots et les mots qui sont employés par les personnes que vous interviewez sont quelquefois très surprenants, comme si je n'ai jamais vu le mot éthique dans le livre. Comment se fait-il ?
Alors, à la décharge de tous ces interviewés, j'ai constaté que la novlangue ne passait pas trop par eux, c'est-à-dire que les interviewés la prennent souvent avec distance. Par exemple, ils vont dire un management en mode start-up, comme on dit, c'est disruptif, enfin ne nous voilons pas la face. Donc eux-mêmes sont très, très attentifs à ça. Si vous dites que le mot éthique ne figure pas dans le livre, oui, c'est certainement vrai. Je pense que désormais, tout le monde a conscience du éthique washing, valeur washing, RSE washing, et donc les interviewés aussi, et ils se rendent compte que prononcer ces mots, ces termes, éthique, valeur, RSE, sans que le concret et le réel et les actes ne suivent, c'est dangereux pour eux. Donc je pense que ça reflète peut-être un peu cet état d'esprit-là.
Oui, tous ces termes-là que vous avez employés, suivis de washing, ça veut dire qu'il y a du faux semblant. Et c'est-à-dire que on touche pas toujours à la réalité. Et moi, je lis ce que dit la façon dont parle un manager. Oui, nous avons des progrès à faire. Il faudrait réussir à faire monter le management intermédiaire. On a un peu de mal à exposer les N-1 sur les sujets d'équipe. Dans un cabinet de 200 personnes, les associés ne peuvent plus tout faire. On a créé un programme de talent avec 5-6 personnes à suivre. Plus globalement, on ne sait pas comment faire. Quand les associés sont opérationnels, ça leur laisse moins de temps pour la stratégie, la formation, la R&D. Le but serait que les associés n'interviennent plus en mission pour exploser davantage les seniors managers. Je ne sais pas si vous qui êtes à l'écoute, vous avez compris quelque chose. Moi, je n'ai pas compris grand-chose dans cette espèce de langage surprenant. Vanina Lanfranchi.
Oui, donc c'est l'instant traduction. Oui, pardon.
Non, je ne veux pas vous demander de traduire ce qu'il a dit, c'est pas tellement important. C'est pour dire qu'il y a une sorte d'écartement, d'éloignement de la réalité. On a l'impression que on parle de choses et la réalité est beaucoup plus simple. Autrement dit, après tout ça, qui fait la vaisselle ?
Et oui, là, c'est un peu son cas, en fait. C'est l'histoire donc d'un associé qui, déjà, sachons-le, toutes les interviews ont eu lieu de manière confidentielle. Donc c'est l'histoire d'un associé qui se livre de manière confidentielle sur finalement comment chaque jour il travaille, comment il se débrouille. Parce que avec une grande humilité, je constate que chacune des personnes interviewées se débrouille et fait comme il ou comme elle peut. Donc celui-ci est à la fois associé, donc il détient des parts du cabinet dans lequel il œuvre. Néanmoins, il doit intervenir chaque jour en mission chez les clients pour faire tourner la machine. Ce qu'il aimerait, c'est pouvoir en tant qu'associé se dégager plus de temps sur la stratégie et donc déléguer davantage à des équipes qui monteraient en puissance à leur tour. Et là, on est vraiment en train d'ouvrir les coulisses sur son questionnement actuel qui est un peu, j'essaye de faire comme je peux, j'ai des idées, bon, mais chaque jour j'avance.
On va s'interrompre encore quelques minutes pour écouter votre troisième choix musical. Il s'agit de Clara Luciani dans Respire encore. On part en boîte là. Le temps passe très vite et en effet on est dans l'accélération du temps avec Vanina Lanfranchi à propos de son livre sur le travail en équipe. Une de vos interlocutrices a cette formule très simple et pas si évidente à réaliser, semble-t-il. Le premier pas, c'est se parler d'adulte à adulte. Ça semble simple comme ça, pas évident.
En effet, pas évident, mais peut-être qu'on peut reboucler avec ce qu'on disait au départ sur le souhait de comprendre le monde. Dans le monde du travail aujourd'hui, il me semble que chaque équipe est soumise à des influences qui sont fortes de la part de l'actionnariat, de la superstructure, de la réglementation, des exigences de reporting. Bon, ça pèse beaucoup sur les équipes. Et je crois que cette phrase vient de ce contexte-là où on dit, dans ce cas, comment trouver des interstices pour tout de même avancer avec son équipe. Eh bien, l'une de ces ouvertures, on trouve le langage et se parler d'adulte à adulte. Par exemple, dire à quelqu'un de son équipe, je conçois que ces reporting ne soient pas extrêmement passionnants. J'admets, voilà, je te considère comme un adulte et on se parle d'adulte à adulte. Néanmoins, là, à l'heure actuelle, on doit les produire, mais je n'essaye pas de t'infantiliser en te disant que c'est magnifique d'exécuter cette tâche ou de faire un compte-rendu chaque semaine à des actionnaires qui ne liront pas, etc.
Voilà, se parler d'adulte à adulte, je crois que on pourrait terminer là-dessus et renvoyer à votre livre Équipe NF qu'on peut trouver sur votre site internet que vous allez nous citer, Vanina Lanfranchi.
Oui, alors mon site c'est www.ignitiontime.fr. Le livre, il est plus visible et plus accessible même sur la plateforme Amazon.
Très bien, on pourra donc s'y reporter. Un immense merci à vous, Vanina Lanfranchi, pour cette somme considérable de témoignages. Et on remercie bien sûr Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur IDFM Radio pour une nouvelle émission Entre Chiens et Loups qui sera consacrée à un très grand artiste de Montmorency, Albert Lozereau, un grand peintre, et une balade qui nous conduira dans les centres de Montmorency. Voilà, bonne soirée à tous à l'écoute d'IDFM. Merci de votre fidélité et à lundi prochain 18h. Merci Vanina.
Merci Claude, au revoir.